et chers frères. Non, l'aveugle de naissance n'était pas plus coupable que d'autres, ni lui, ni ses parents. Non, le virus ne vient pas de Dieu et ne circule pas par la faute de Dieu ou les défauts de sa providence. C'était, écrit saint Jean à propos de l'aveugle, pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tout événement, heureux ou tragique, éclairé par la foi, peut donc nous faire grandir. En ce monde qui prend conscience, en ces jours en particulier, de sa fragilité et de notre condition d'étranger en quête de notre demeure définitive. Essayons donc de comprendre quelle lumière est advenue pour cet homme malade et quel éclairage nous pouvons en recevoir en ce temps d'épreuves et de crise mondiale. Je voudrais souligner quelques éléments importants de cette rencontre. Tout d'abord, ce geste insolite de la part de Jésus. Il crache à terre, fait de la boue avec sa salive, avant de l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, peu recommandé en temps de pandémie. Habituellement, les évangiles rapportent surtout la grande sobriété de Jésus face aux malades. Pour bien le distinguer des guérisseurs de son temps, riches en formules magiques et en gris-gris de toutes sortes, Jésus guérit d'un mot, d'une parole. Ici, ce geste rare attire donc l'attention et nous renvoie évidemment à la scène du paradis, à la création de l'homme et de la femme. Ce qui va avoir lieu, ce n'est pas seulement une guérison, mais bien une recréation, un renouvellement profond de tout l'être, et pas seulement des yeux de chair de cet homme. C'est tout le génie de saint Jean de choisir un aveugle, il y a eu d'autres guérisons dans l'Évangile, un paralytique, une femme au puits, et du fond de sa contemplation d'en tirer tout un enseignement qui dépasse l'anecdotique pour devenir théologique et mystique. Sans nier l'histoire, il tient à en montrer les enjeux. Si son évangile a été appelé spirituel dès les origines de l'Église, c'est parce que chez lui, l'histoire, et il est souvent le plus historique des évangiles, contrairement à ce qu'on avait prétendu pendant longtemps, parce que chez lui, l'histoire est véritablement transfigurée, le sens spirituel pénétrant jusqu'aux détails du récit. Ceci invite à moins de curiosité de notre part et à un regard attentif qui relève plus de la contemplation que de la dissection. Second point d'attention, va te laver à Siloé. C'est le nom d'une source à Jérusalem. Mais surtout, ce nom est symbolique puisqu'il veut dire la piscine de l'envoyé. Autrement dit, c'est en étant plongé dans cette piscine, c'est-à-dire plongé dans la rencontre personnelle avec l'envoyé de Dieu, que l'on peut sortir de l'obscurité et accéder à la lumière. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, précise Jésus. Troisièmement, cette lumière n'est pas une douce lumière d'ambiance pour distraire et orner. Elle fait la vérité. Comme un glaive à double tranchant, elle sépare le vrai du faux, l'hypocrisie de la sincérité. On le voit avec les voisins. Certains le reconnaissent, cet aveugle. D'autres refusent de le reconnaître. C'est quelqu'un qui lui ressemble, disent-ils, pour ne pas avoir à accepter que Jésus a effectivement opéré cette guérison. On le voit ensuite avec les pharisiens. Les uns reconnaissent qu'un homme pécheur ne pourrait poser un tel signe. Mais beaucoup d'autres s'indignent contre Jésus. Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. Mais le malade ne peut que répéter « C'est bien moi, et cet homme que je connais à peine, il m'a guéri. » Et puis, c'est un prophète. Enfin, les parents entrent en scène, ils confirment que c'est bien leur fils. Mais quant à se prononcer sur cette guérison, ils se défaussent Interrogez-le vous-même. En fait, ils avaient peur des Juifs. Finalement, c'est ce pauvre malade, convoqué une nouvelle fois, qui ne pourra que répéter ce qu'il dit depuis le début. J'étais malade, maintenant je vois, et cet homme m'a guéri. Alors on le jette dehors. Heureusement, Jésus va revenir vers lui et l'interroger. « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Finalement, il va se révéler à lui. « Je le suis, moi qui te parle. » Quel chemin simple et vrai pour le malade, sinueux et tordu pour beaucoup d'autres. Telle est la condition du croyant qui s'éclate pour Jésus, hier comme aujourd'hui. Il nous est offert de vivre l'expérience en notre cœur et en notre corps que la rencontre avec Jésus est une lumière sur notre route. Elle fait voir. Si on n'en est pas persuadé, on ira chercher ailleurs ou on tuera la question. Mais il faut accepter d'en payer le prix. Pour l'aveugle, c'est l'exclusion. Pour bien des chrétiens, aujourd'hui encore, c'est la moquerie, la dérision, la persécution parfois. La souffrance de l'incompréhension, de la marginalisation, jusqu'au sein de nos familles parfois, ne peut se vivre que si l'expérience de la lumière de Jésus est forte en nous, crédible, apaisante, fortifiante, guérissante, mais aussi bousculante. Je suis venu, dit Jésus, pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Conduisez-vous en enfant de lumière, écrit l'auteur de la lettre aux Éphésiens, nous l'avons entendu tout à l'heure. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. La rencontre avec le Christ aujourd'hui, au cœur de cette crise terrible, est possible et est source de lumière et de guérison. Je suis venu pour une remise en question, dit Jésus. Peut-être que bousculé par cette épidémie, traumatisé par ses conséquences au plan humain, psychologique, économique, nous nous poserons à nouveau les bonnes questions. Quelle est ma boussole? Quelle est ma lumière? Est-ce que je suis un baptisé qui continue de se purifier le regard et le cœur à la piscine de Siloé, la piscine de l'envoyé? Demandons à Jésus ce matin d'ouvrir nos yeux, de fortifier notre foi, de nous donner le courage de croire et d'aimer, la ténacité de la fidélité envers et contre tout. Enfin, chers frères et sœurs, avec qui nous sommes reliés ce matin par ma communion spirituelle et en Jésus, vous nous manquez, et je sais que c'est réciproque. Peut-être ne savions-nous pas à quel point c'est un privilège de pouvoir croire, de pouvoir se réunir pour l'Eucharistie. Notre faim et notre soif du Christ se fortifiera sans doute par cette abstention provisoire du rassemblement dominical jusqu'au jour où, espérons-le, le Christ nous attendra ici. Je vous souhaite, comme on dit d'habitude, un bon dimanche, je dirais plutôt un saint dimanche. Amen.